La plupart des religions se sont fabriquées un dieu à la papa gâteau, mou comme de la guimauve, pas vraiment capable de faire grand-chose et relativement facile à manipuler. Il est diagonalement opposé au dieu unique et vrai qui est le seigneur souverain du ciel et de la terre. Mais ce dernier n'a pas bonne presse parce qu'il ne craint pas de punir, comme il se doit, toute forme de mal. En effet, Jean entend chanter dans le ciel « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu ! Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée Babylone et lui a fait rendre compte du sang répandu par sa main. » Puis l'apôtre entend un second « Alléluia !« Car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. » Je continue maintenant de lire dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Alors, les 24 êtres vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant le Dieu qui siège sur le trône et l'adorèrent en disant « Amen, loué soit Dieu !» Ici encore, on constate que le livre de l'Apocalypse fait une distinction entre l'Église et les croyants de la tribulation. En effet, les 24 vieillards qui représentent l'Église se joignent au corps des martyrs qui constituent la foule immense issue de la tribulation. Les 4 êtres vivants qui font partie de l'ordre d'anges supérieurs appelés chérubins chantent aussi Alléluia avec les 24 vieillards qui adorent Dieu tout au long de la vision de Jean. Ici, ces deux groupes s'écrient « Amen, loué soit Dieu !» Une citation du psaume 106 où le psalmiste adore Dieu en disant « Loué soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité, et que le peuple entier réponde « Amen, loué l'Éternel !» Amen signifie « Oui, qu'il en soit ainsi », ce qui veut dire que ces deux mots participent à de tout cœur aux réjouissances suscitées dans le ciel par la chute de Babylone, car cette destruction est nécessaire pour que le Seigneur établisse son royaume sur terre. Je continue le texte. Et du trône partit une voix. « Louez notre Dieu, disait-elle, vous tous ses serviteurs, et vous qui le révérez, petits et grands. » Jean ne dit pas qui parle, mais comme cette voix s'adresse à notre Dieu, ça ne peut être une créature, sans doute l'un des 4 êtres vivants, et il exhorte petits et grands, c'est-à-dire tous les habitants du ciel à louer Dieu. Je continue. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit des grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Cette foule immense est la même que précédemment. Ce sont les croyants martyrs issus de la tribulation. Une fois que tous les habitants du ciel se mettent à chanter, ça fait du monde, et cette foule nombreuse doit faire un bruit retentissant, puisque Jean le compare au grondement assourdissant du tonnerre et à de grandes eaux. Ce que l'apôtre entend lui fait probablement penser au son émis par une grosse chute d'eau qui s'écrase sur des rochers. C'est effectivement bruyant. Je continue. Elle, la voix, disait « Alléluia ! Loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Cette cantate céleste fait entendre un quatrième « Alléluia ». Puis la raison de cette joie nous est donnée, et c'est toujours la même. Maintenant que Babylone, la bête de l'empire de l'Antichrist, est détruite, le Seigneur va enfin régner sur terre comme au ciel. C'est aussi l'accomplissement de la promesse que l'Éternel a faite au roi David et que nous rapporte le second livre de Samuel. Dieu dit alors, « Oui, je rendrai stable pour toujours la dynastie et la royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Il faut garder à l'esprit que dans les Écritures, Jésus est le second David. Les êtres célestes se réjouissent d'avance, mais c'est tout comme si le royaume était déjà bien en place, car rien ne peut s'opposer à la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. Une déclaration qui revient 9 fois dans le livre de l'Apocalypse. Je continue le texte. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. » Les habitants du ciel ont plusieurs raisons de se réjouir. Justice est rendue. Babylone est en ruine. Dieu prend en main toutes les rênes du pouvoir et assume pleinement sa souveraineté sur la terre. Le dernier lepin de l'univers qui lui était insoumis. Et Jésus s'apprête à y établir son royaume de 1000 ans. Enfin, les cieux sont dans la joie parce qu'on se prépare à célébrer le plus grand mariage de tous les temps. Les noces de l'agneau, une expression qui demande une explication. Dans la culture juive, l'événement familial le plus important est le mariage. Il signifie l'union de deux familles et a de très fortes implications économiques. Sa préparation et sa célébration sont bien plus élaborées que chez nous. Le mariage juif dure environ 1 an. Quand les futurs époux sont en fin d'adolescence et plusieurs années, s'ils sont encore enfants, parce qu'il comprend plusieurs étapes, mais avec des variantes. La première étape consiste à établir une alliance formelle, un contrat entre deux familles. Si les futurs mariés sont adultes, le jeune homme se rend à la demeure de sa belle et négocie avec son père le prix qu'il doit verser pour obtenir la main de la jeune femme. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, le futur époux rassemble la somme, la verse, puis il retourne chez lui. Cependant, une fois que le prix convenu est payé, l'alliance est scellée et les jeunes gens sont légalement mariés, même si on utilise le terme « fiancé ». La jeune fille appartient alors exclusivement à son mari, même s'ils ne cohabitent pas ensemble. Comme symbole de l'alliance ainsi établie, les deux conjoints boivent ensemble une coupe de vin béni par le prêtre. L'époux donne aussi un bijou ou un objet de valeur à son épouse pour symboliser leur union, car ils sont considérés mari et femme, elle prend le nom de son mari. Si ce sont des patriarches des deux familles qui décident d'établir une alliance en mariant leur enfant, ce sont eux qui s'accordent sur le prix. Si les jeunes gens sont déjà d'un certain âge, ils scellent l'alliance entre deux. Mais dans tous les cas, ces fiançailles, qui sont en réalité un mariage, ont force de loi et ne peuvent être rompues que par un divorce en bonne et due forme. Comme je l'ai dit, une fois que le jeune homme verse la somme convenue à son beau-père, il retourne dans la maison familiale et pendant l'année qui vient, il prépare un logement dans la maison de son père pour son épouse et lui. Quant à la femme, qui est donc maintenant mariée, elle rassemble son trousseau, ce qui peut inclure divers biens, des bijoux de famille ou encore des propriétés que lui lègue son père en dot. Le mariage est toujours une affaire de famille et non pas une affaire individuelle. Vers la fin de l'année qui suit l'alliance maritale, l'époux rassemble ses amis et de nuit, à la lumière des flambeaux, il forme une procession qui se rend chez son épouse. Celle-ci ne sait pas d'avance le jour où son mari viendra la chercher. Ce qui veut dire qu'avec ses demoiselles d'honneur, elle doit se tenir prête à tout moment. L'arrivée de la procession est précédée par un héros qui pousse un cri afin de donner à l'épouse le temps de rassembler ses affaires, ainsi que sa suite composée des demoiselles de compagnie. Puis, quand tout le monde est prêt, la procession retourne joyeusement dans la maison de l'époux. Cependant, les conjoints sont toujours séparés et l'épouse est voilée. À leur arrivée, ils trouvent tous les invités qui se sont rassemblés pour le repas des noces. Mais dès le début des festivités, les mariés quittent les invités et vont dans la chambre nuptiale. Une fois qu'ils se sont unis, le mari sort pour annoncer la bonne nouvelle et la fête continue encore plusieurs jours, durant lesquels l'époux reste dans la chambre avec son mari. À la fin des festivités, l'époux présente aux convives sa femme sans son voile afin que tous puissent faire sa connaissance. Les Écritures appliquent les coutumes juives du mariage à la relation d'une part de l'Éternel avec Israël et d'autre part de Jésus-Christ avec l'Église qui est son épouse. L'alliance de la loi sur le mont du Sinaï est le contrat de mariage entre Dieu et son peuple, et Moïse est l'ami et le témoin de l'époux. Aujourd'hui, sous nos tropiques, les mariés symbolisent leur alliance en échangeant des bagues. Sous le régime de l'ancienne alliance, c'est le respect du sabbat qui sert de signe. Et sous le régime du Nouveau Testament, le gage que Jésus donne aux membres de son Église est le Saint-Esprit. Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qui avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet Esprit qui constitue l'acompte de notre héritage. » Le mot « acompte » que Paul utilise signifie littéralement « gage »,« garantie » et aussi « bague de fiançailles ». En résumé donc, le mariage juif des temps bibliques consiste en trois grandes étapes. Premièrement, une alliance entre les familles qui est scellée quand l'époux ou son père verse la somme d'argent convenue au père de l'épouse. Ce contrat légal établit les fiançailles, ou plutôt les épousailles, car il a force de loi et ne peut être rompu que par un divorce. Cette première étape du mariage juif a commencé à être appliquée à l'Église à la Pentecôte et se poursuit. Deuxièmement, environ un an après l'alliance des deux familles, le mari rassemble ses amis et en procession, ils vont chercher l'épouse et l'amènent dans la maison du père du marié. Pour l'Église, cette étape aura lieu au moment où elle sera enlevée au ciel. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit « Au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. » Troisièmement, a lieu le repas de noces avec de nombreux invités. Cette étape aura lieu pendant le millénium sur terre et sera l'occasion d'une gloire et d'une joie ineffables, comme une lune de miel qui dure 1000 ans. Et ce n'est que le début. Les principales caractéristiques du mariage juif se retrouvent dans les cérémonies modernes, mais condensées dans le temps, et pas tout à fait dans le même ordre. Quand le père amène sa fille et la place à côté de son futur époux, il signifie par là qu'il approuve d'avance cette union, ce qui lui donne force de loi. La promesse des époux de prendre l'autre pour mari ou femme et de lui être fidèle constitue l'alliance. Les époux échangent des bagues qui symbolisent leur union. Ensuite, ils sont déclarés mari et femme et sont présentés aux amis et parents comme monsieur et madame, et ils portent le nom de son mari. Puis l'époux prend la femme que le père lui a donnée par la main et l'accompagne jusqu'à la sortie. Les époux sont escortés par les compagnons du mari et les demoiselles d'honneur de la femme, ce qui constitue une petite procession. Ensuite, ont lieu une réception et un repas de noces avec les invités. Enfin, le couple quitte la salle de noces et va dans un lieu privé qui est leur chambre nuptiale. On voit bien que la grande différence entre la coutume juive du mariage des temps bibliques et la nôtre est la notion de temps. Au lieu de s'étaler sur un an ou plus, aujourd'hui, tout se fait en un jour, parfois deux. Il y a 2000 ans, Jésus a quitté la demeure de son Père et est venu vers la terre pour chercher l'Église, son épouse. Pour l'obtenir, il a conclu une alliance en son sang, et c'est aussi le prix qu'il a dû verser sur la croix. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, vous avez été rachetés à grand prix. et dans sa seconde épître aux Corinthiens, « J'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai, en effet, fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. » Paul dit aux Éphésiens que cette Église est présentée dans les cieux à Jésus-Christ comme une épouse, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Jean-Baptiste et Paul en particulier ont rempli la fonction de l'ami et témoin de l'époux. Quand les croyants se laissent influencer par tout ce qui les entoure, ils se rendent coupables d'adultère spirituel à l'égard du Seigneur. Dans son épître, Jacques écrit « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Le contrat de mariage de l'Église avec Jésus-Christ est signé depuis toute éternité quand le Père promet à son Fils un peuple de rachetés et écrit leur nom dans le livre de vie. Après avoir établi l'alliance et être ressuscité des morts, Jésus a quitté la terre, la demeure de son épouse, et est retourné au ciel dans la maison de son Père. Puis, il a envoyé le Saint-Esprit qu'il avait promis, et il prépare une habitation pour son Église. Peu avant de mourir, il a dit à ses disciples, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je voulais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Jésus confirme cette volonté dans la prière sacerdotale, quand il dit « Mon Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Cela fait maintenant presque 2000 ans que le Seigneur et l'Église sont séparés. Mais tout comme l'épouse juive ne sait pas exactement quand son mari viendra la chercher, les croyants non plus ne savent pas quand Jésus reviendra pour enlever son Église et l'emmener avec lui dans la maison du Père, où débuteront les noces de l'agneau et où ils se réjouiront de la félicité éternelle. Nous sommes maintenant arrivés à la fin des 7 années de tribulation, et Jean dit littéralement « Le mariage de l'agneau est venu », ce qui signifie que cet événement est sur le point d'avoir lieu. L'Église est prête pour cette immense célébration dont le début coïncide avec l'établissement du règne du Christ sur terre, règne qui durera 1000 ans, pour finir par la félicité éternelle dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Cependant, dans l'éternité, les distinctions sont effacées, et ce sont tous les rachetés de tous les temps qui constituent l'épouse de l'agneau et qui sont mariés à l'Éternel, tandis que la nouvelle Jérusalem est leur ville nuptiale. Je continue de lire dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Sa fiancée, la fiancée de l'agneau, s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Cela représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Aujourd'hui même, et tout en attendant que le Seigneur vienne la chercher dans les airs, l'Église se prépare en constituant son trousseau, qui se compose des œuvres justes réalisées par tous les croyants. En effet, dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Nous sommes l'œuvre de Dieu, façonnée à l'image de Jésus-Christ, afin que nous accomplissions les bonnes actions que Dieu a préparées d'avance. Dieu a fait une liste de ce qu'il veut que je fasse pour lui. Le problème est que je suis totalement incapable d'accomplir la moindre bonne œuvre sans qu'elle soit entachée d'égoïsme. Le « moi » se met constamment au travers du chemin que Dieu me trace. Qu'à cela ne tienne, il prend en compte ma volonté et ma fidélité à son égard, bien que celle-ci laisse également pas mal à désirer. Cependant, comme le Seigneur ne peut pas accepter l'imperfection, mes bonnes actions polluées sont purifiées par le sang du Christ et toutes les scories que je traîne comme des casseroles seront brûlées. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Après l'épreuve du feu, il ne restera plus que des accomplissements parfaits aux yeux de Dieu. Aux noces de l'agneau, ses œuvres pures, en or et en argent, agrémentées de pierres précieuses, orneront et embelliront la robe de mariée de l'Église qui est dite d'un lin pur éclatant. Or, cette étoffe, d'une grande beauté, est très onéreuse. Sont en lin les vêtements du grand prêtre, ceux des anges, porteurs des sept coupes, de la colère de Dieu, et ceux des armées célestes qui accompagnent Jésus quand il revient sur terre pour établir son royaume. Il va sans dire que les croyants ne sont pas justes en eux-mêmes, mais ils sont déclarés justes par pure grâce, car la justice de Christ leur est imputée. Cependant, une fois glorifiés dans les cieux, ces mêmes croyants sont alors justes en eux-mêmes, tout comme les anges. En effet, dans sa première épître, l'apôtre Jean écrit « Lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. »